Pour commenter l'extrait suivant ou pour voir la version vidéo, rendez-vous sur le blog Un héros dans le net. Un regard théologique sur le monde. Bienvenue à Un regard théologique sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau. Et je vous présente mon invité, Dr. Raymond Perron. Bonjour, Monsieur Perron.
Bonjour, Pascal.
Vous allez bien? Vous avez une bonne journée aujourd'hui?
Par sa grâce, dirait l'autre, par sa grâce. Non, c'était une bonne journée, effectivement. Un peu de fatigue parce que j'ai passé une partie de la journée en studio, à enregistrer, bien sûr, les émissions paroles du matin pour la semaine prochaine. Alors, la voix est un petit peu éreintée, là, esquintée. Mais enfin, oui, le corps va bien et l'âme, bien sûr, demeure stable.
Et pour ceux qui veulent voir les autres enregistrements, pour ceux qui nous écoutent sur Un héros dans le net, qui voient le vidéo pendant qu'on parle, en dessous du vidéo, il y a un lien, là, et vous cliquez, vous avez les autres émissions disponibles à ces fois, dont Parole du matin avec M. Perron. Alors, aujourd'hui, à Un regard théologique sur le monde, on va revenir sur un article qui est paru dans le New York Times le 12 septembre dernier, c'était la semaine dernière, et je trouvais que c'est un article intéressant. C'est une étude qui a été faite sur la testostérone, donc c'est l'hormone mâle, l'hormone chez l'homme, et le taux de testostérone a été observé chez l'homme en lien avec la paternité. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que le taux de testostérone baisse drastiquement lorsque l'homme devient père. Et plus il s'implique dans la paternité, plus le taux de testostérone demeure bas. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ben, c'est que là, on a un facteur social, la paternité. C'est pas pour des raisons biologiques que la testostérone baisse, c'est pour des raisons sociales. L'homme devient père, il a de nouvelles responsabilités, un enfant à s'occuper, et ces responsabilités-là produisent un effet biologique, font baisser sa testostérone. Et il y a beaucoup de bons côtés au fait que la testostérone de l'homme baisse parce que même si c'est une bonne hormone, elle peut causer des problèmes, elle a des effets négatifs sur la santé. C'est un petit peu à cause de ça qu'on perd nos cheveux, les hommes, mais aussi ça diminue le cancer, les possibilités d'avoir un cancer de la prostate si on a un plus bas taux de testostérone. Et également, ça a beaucoup d'effets sur le comportement. Hein, la testostérone, quand on a un groupe de jeunes hommes dans la vingtaine qui se retrouvent ensemble, qui se sentent bien virils et qui se lancent des défis, il y aura souvent des problèmes qui vont s'en suivre. Si la testostérone était plus basse, des hommes qui sont impliqués dans la paternité, qui sont pères, n'auront pas nécessairement envie de relever ces défis. Et voilà. Donc, je pense que vous venez de me perdre hein, là-bas, vous.
Je viens effectivement de vous perdre, Pascal.
Vous voyez pas l'image, mais nous, on vous voit encore. C'est moi qui ai débranché ma caméra. Ben, mais on continue. C'est un petit détail technique. Une fois que la testostérone est plus basse, ça stabilise le foyer. Ça amène beaucoup plus de stabilité chez l'homme. Donc, plus de stabilité dans le foyer, dans le couple, le mariage et la relation au foyer. Et ça aura des répercussions positives également sur le reste de la société si les foyers sont plus stables. Maintenant, une interprétation naturaliste de cette donnée-là dirait que c'est un produit de l'évolution parce que ça serait avantageux biologiquement pour l'homme d'avoir des enfants. Donc, le corps s'est adapté et a fait baisser la testostérone, ce qui est un petit peu contre-intuitif parce que ça semble pas avantageux biologiquement d'avoir des enfants parce que, je sais pas si vous voyez, j'étais un peu cerné, moi, parce que j'en ai trois. On manque de sommeil, on doit apprendre à faire des sacrifices. J'imagine qu'à une autre époque, quand les gens vivaient plus dans une économie agraire où devaient voyager, avoir des enfants, ça devait pas toujours être un avantage. Alors pourquoi est-ce que c'en est un biologiquement? Est-ce que c'est un fruit de l'évolution? Alors, docteur Perron, quelle serait une lecture chrétienne, de cette étude-là?
Ben, je pense que c'est un fruit de la création qu'il en soit ainsi. D'abord, je vous remercie pour ce cours intensif sur la testostérone. J'ai pas pris toutes les notes, mais j'espère que vous allez me fournir les vôtres. C'était effectivement, ça a beaucoup contribué à ma culture. Vous savez, on a mis beaucoup d'accent sur la question sexuelle à l'intérieur du mariage, hein. On a mis beaucoup d'importance sur cette question-là et elle n'est pas insignifiante. Sauf qu'un bon mariage peut exister sans une activité sexuelle à l'emporte-pièce, hein, digne d'un Grammy, vous voyez. C'est infiniment plus que cela, au départ, un mariage. Et je pense que, vous
Donc,
voyez,
ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas très grave si la testostérone baisse un peu.
ben, je pense que c'est bien qu'il en soit ainsi. Là, ça nous permet de nous consacrer à autre chose en partant. Oui, non, mais c'est un fait, vous voyez. En Israël, par exemple, hein, vous savez, lorsqu'un couple se mariait, ils avaient une année de congé
Oui.
pour bien profiter l'un de l'autre. Et ensuite, bon, ben, quelque part, on retourne à nos tâches normales, vous voyez.
C'est ça.
Et lorsque les enfants arrivent, comme vous le mentionnez, on a besoin de beaucoup d'énergie, on a besoin de beaucoup de temps, on a besoin également de s'oublier, hein. Moi, j'ai toujours dit, lorsqu'on se marie, il y a 50% de nous qui doit mourir, là, de notre intérêt pour nous-mêmes, et lorsque les enfants arrivent, l'autre 50% décède aussi.
Il reste
De
plus grand-chose
sorte
dans
qu'on en
le monde.
arrive, à vivre pour les autres, et c'est un peu ça le but, hein. On n'est pas appelé à vivre pour nous autres, on s'accomplit véritablement dans le don, aux autres. D'ailleurs, on se connaît toujours par rapport aux autres. On n'est rien sans les autres. On ne se connaît pas en se regardant dans un miroir, mais on se connaît en étudiant, en analysant nos réactions par rapport aux autres. La question d'avoir des enfants est une question qui ne date pas d'hier. On se souviendra de la joie qui animait Ève, hein, lorsqu'elle a eu Caïn. Bon, il y a eu une déception par la suite, mais à quel point elle est contente en disant, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est une grande grâce qui est faite de pouvoir effectivement se prolonger dans une progéniture, parce que c'est ce qu'on fait en tant que parents, on se prolonge dans notre progéniture. Bon, aujourd'hui au Québec en particulier, ce sont les garderies qui élèvent les enfants, mais dans un monde jusqu'à récemment, là, c'était effectivement les valeurs familiales qui étaient communiquées, qui étaient passées aux enfants, on se prolongeait dans les enfants. C'est un peu plus générique maintenant, mais enfin, ça, c'est une autre discussion, un autre discours.
Et
Maintenant,
croyez-vous que donc Dieu qui a donné la famille comme une des institutions les plus essentielles au bien-être de la société, a aussi, dans sa providence, assuré des moyens de garder la famille, comme le mariage, par exemple, qui est une institution qui date de la création et qui assure le bien-être de la famille et par conséquent toute la société en bénéficie. Et là, c'était quelque chose qui était inconnu pour le reste du monde jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on découvre que finalement, il y a même des bienfaits physiques, biologiques, que Dieu, dans sa providence, accorde à l'homme, récompense l'homme lorsqu'il honore cette institution.
il ne fait aucun doute dans mon esprit, Pascal, avec tout le respect qu'on a, parce que le célibat aussi, hein, est un état qui est respecté par le Seigneur, et la parole en parle, mais on sait qu'en général, l'état normal, c'est l'état de mariage. Et nous lisons dans la littérature de sagesse qu'il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Verset que j'ai toujours interprété en relation avec le mariage. On sait qu'on demeure d'éternels adolescents jusqu'à ce qu'on tombe responsable, en quelque part. Et effectivement, le haut taux de testostérone, hein, ça donne un bon air d'aller pour un couple. Maintenant, c'est un petit peu comme l'amour que nous avons initialement l'un pour l'autre,
Le
cette
petit
espèce
coup de
de
foudre.
fort sentiment, cette espèce d'attraction très très forte, n'est-ce pas? Cet attrait demeure et cette attraction demeure, mais elle prend une autre forme avec le temps. Et il en va ainsi, à mon avis, à ce niveau-là également. Et ça nous permet d'approfondir, de devenir donc effectivement plus équilibré, plus fonctionnel et d'être plus inclusif dans nos activités. Parce que, comme vous le mentionnez, ou comme vous le mentionniez précédemment, les enfants, c'est extrêmement exigeant. Et si on veut effectivement en faire ce qu'on doit en faire, des adultes responsables, des adultes qui vont être des porte-flambeaux dans leur génération, c'est énormément demandant.
Effectivement. Et en tout cas, je trouve l'étude intéressante. Moi, ça m'aide à comprendre ce qui se passe dans ma propre vie parce que avant d'être marié, avant d'avoir des enfants, j'étais un homme agressif, je faisais de la boxe. Et puis aujourd'hui, je verse une larme à tous les jours.
Sur un poème.
Oui, voilà, sur un poème. Non, je plaisante. J'ai pas ressenti de changement comme ça subjectivement, mais semble-t-il qu'objectivement, donc, on est beaucoup moins animé par l'hormone mâle lorsque l'on devient père et qu'on s'implique dans cette paternité.
Et c'est dans l'ordre des choses. Il en va ainsi pour les différentes sphères de nos vies. Hein? Lorsque nous avons 20 ou 25 ans, on est attiré par les filles relativement jeunes, n'est-ce pas? Lorsqu'on a 50 ans, ce que vous n'avez pas encore, Pascal, bien sûr, les goûts changent un tout petit peu. Vous voyez, c'est simplement une évolution normale des choses. Oui, le mot évolution intervient, mais non pas dans le sens d'évolutionnisme, mais c'est l'évolution normale des choses selon ce que Dieu nous a créé.
Ouais. Bien, merci d'avoir partagé votre sagesse avec nous pour qu'on puisse, en examinant la révélation générale, voir la gloire de Dieu qui y est révélée.
Amen. Alors, merci Pascal à vous. C'est toujours bon de vous parler, hein?
Oui, ben je suis content de l'apprendre. Alors que le Seigneur vous bénisse et puis on se retrouve une prochaine fois.
À bientôt donc.